8h19 à Paris, on retrouve Nathalie Amar pour la revue de presse française. Bonjour Nathalie.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
À la une, Rio, jour J-3.
Et avant le lever de rideau vendredi, honneur au roi Pelé, le plus grand sportif brésilien de l'histoire. 75 ans, 3 coupes du monde de football, 3 mariages, le dernier en juillet. Mais, souligne le Parisien, aucune participation aux Jeux Olympiques. Dans les colonnes du journal, Pelé affirme que c'est un grand regret. J'ai joué la Coupe du Monde 58 avec le Brésil, ensuite je suis devenu professionnel, je n'ai pas pu participer aux Jeux car ce n'était pas autorisé. À l'époque, rappelle Pelé, seuls les amateurs pouvaient jouer. C'est le seul tournoi auquel je n'ai pas pu participer. Alors bien sûr, Pelé aura un œil sur les performances des footballeurs brésiliens, notamment Neymar qui, rappelle-t-il, a débuté dans son équipe, celle de Santos, entraîné par le fils Pelé. On a un regard spécial sur lui, j'espère qu'il sera en forme. Le meilleur athlète de l'histoire des JO pour Pelé ? Usain Bolt, une légende, dit-il, et Mohamed Ali, celui, dit-il, que j'ai le plus admiré. J'aurais aimé l'affronter, je pense que j'aurais été bon, parce que je me suis parfois battu. Pelé pourrait être vendredi le dernier porteur de la flamme olympique lors de la cérémonie d'ouverture à Rio, Arnaud.
Et vous évoquiez Usain Bolt, Nathalie, on le retrouve à la une de l'équipe.
Le quotidien sportif publie un sondage sur les sportifs préférés des Français pour ces Jeux, et le sprinter jamaïcain, 6 fois champion olympique à Pékin et à Londres, fait la course en tête. Il sera, pour 35% des sondés, la star des JO, tout pays et toute discipline confondue, loin devant la gloire nationale du judo, Teddy Riner, champion olympique et octuple champion du monde. Les JO encore et le sort de nombreux sportifs russes, toujours en suspens après les accusations de dopage de masse. Les noms de ceux qui sont éligibles seront connus aujourd'hui au plus tard. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Sports, Vitaly Moutko, rappelle le Parisien. Et ces Jeux seront évidemment à suivre sur RFI. Notre équipe est déjà sur place.
Dans les pages internationales du Monde, la Colombie.
Après quatre ans de tractations, l'accord de paix définitif entre les FARC et le gouvernement de Juan Manuel Santos doit être signé dans les semaines qui viennent. L'autre sujet des négociations de paix, c'est, dit le journal, l'avenir des combattantes de la guérilla des FARC. Car si la direction du mouvement est à 100% masculine, les femmes représentent 40% des effectifs de l'organisation armée. Les FARC sont une armée, certes, très hiérarchisée, mais qui prétend, sur le papier, pratiquer l'égalité. L'égalité homme-femme, affirme une responsable du ministère de l'Intérieur à Bogota. Yadira, entrée dans les FARC quand elle était encore mineure, témoigne dans le maquis. Tout le monde combat, tout le monde fait la cuisine, dit-elle. Évidemment qu'il y a du machisme. Les hommes, ce n'est pas facile de les changer, mais moi, je n'ai jamais lavé le linge de personne et je n'ai pas eu à servir un mari à table pour avoir de quoi manger.
Libération s'intéresse au Burundi et à celui que le journal décrit comme consultant du régime Nkurunziza.
Oui, il s'agit de Luc Michel. Le journal nous explique que c'est une figure mal connue de l'extrême droite belge et il conseille donc le président burundais et l'incite, selon Libération, à ne pas dialoguer avec l'opposition. Ce 2 mai, c'est la fête du travail au Burundi. Le président Nkurunziza va s'adresser à la nation. Dans l'enceinte, les diplomates étrangers applaudissent poliment, les autorités locales un peu plus fort, raconte Libération. À quelques mètres du chef de l'État, un blanc à lunettes, tout sourire, quinquagénaire, crâne rasé, vêtu de noir. Luc Michel a été convié à 9 jours de vadrouille à travers le pays, 9 jours durant lesquels ce militant radical, prophète autoproclamé du national-bolchevisme, a joué les consultants auprès du régime et fait la promotion de celui-ci dans les médias et auprès de la population. L'homme s'exprime au micro du journal. « Je suis quelqu'un de controversé. Je n'ai pas l'habitude de vendre de l'eau tiède. Je vends de l'eau glacée ou de l'eau brûlante. » C'est ce qu'il déclare donc dans une réunion publique à Bujumbura, entre deux éloges d'un panafricanisme dont Pierre Nkurunziza serait le nouveau champion. Du côté de l'opposition burundaise, Arnaud, on dénonce en cet homme un néo-nazi venu encourager le régime dans sa répression féroce de l'opposition.
Et puis dans Les Échos, le premier bonjour d'Internet.
Et oui, le quotidien évoque dans le cadre d'une série d'été sur les 10 jours qui ont changé la science, ce 29 octobre 1969. Ce jour-là, un étudiant de l'Université de Californie à Los Angeles, travaillant à des projets de recherche financés par l'armée américaine, envoie à un autre étudiant de Stanford le tout premier message via l'ARPANET, l'ancêtre de l'Internet, un message ou plutôt deux lettres. L eau, puis le système, plante, hein, c'est des choses qui arrivent. L'intégralité du message, login, n'arrivera que des heures plus tard, mais peu importe, un mois après ce premier échange, les deux universités sont reliées en permanence via ARPANET. En un an, 20 autres se joignent au réseau, elles seront 200, 10 ans plus tard, Internet était né.
Merci Nathalie Amard, revue de presse des journaux français à retrouver sur RFI.fr.